Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Bonjour à tous, c'est parti pour 3 heures de Super Moscato Show sur RMC en ce jeudi 30 juillet en plein cœur de l'été. Eh bien, nous sommes avec Adrien, avec un très beau programme aujourd'hui, je trouve, Adrien.
Oui, très joli programme avec, là, je vais parler de mes chroniques, des
mâchoires.
Je sais que tu adores Christophe Cessieux dans le journal moyen. Il y aura une petite mâchoire paralysée de Christophe Cessieux. Une mâchoire paralysée d'Apolline de Malherbe.
On prend aussi.
Non, normalement, Apolline, elle est parfaite, hein, elle est sérieuse, hein, c'est une vraie journaliste, elle, contrairement à nous. Et puis un Kikadi à 17h45 dans lequel Éric Dimeco va craquer. Je vous dis pas s'il gagne ou s'il perd, ce qui se passe, mais en tout cas, c'est
la craquante
d'Éric Dimeco et puis de très bons débats et de très bons invités.
Alors les invités, on a des grands champions. Nous avons Éric Perrault, le vainqueur de la Coupe du Monde de biathlon. Mais alors nos débats, là, c'est quelque chose. Peut-on encore détester le PSG à 17h? C'était après la demi-finale fantastique face au Bayern Munich.
Avec Éric Dimeco qui va témoigner dans ce débat.
Antoine Griezmann, attention, mange-t-il à la table de Zidane, Platini et Mbappé?
Je pense que
c'était incroyable.
Un des meilleurs débats foot de la saison.
Tout à fait.
En fait, on devrait faire une semaine spéciale. On dresse la table de tous les grands champions dans tous les sports. Ce sont les meilleurs débats.
Et puis, pourquoi Mbappé n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions? Ça, c'est tout de suite sur RMC. On parlera de Dupont aussi dans une demi-heure. Bref, on a un très beau programme. Évidemment, nous avons aussi notre chouchou, Johnny Wilkinson, qui sera notre invité.
Mbappé tout de suite, Pierrot, on y va.
Allez, c'est parti.
RMC, le Super Moscato Show.
Si les murs du Palais Royal de Madrid pouvaient parler.
Que hacemos un gran partido como equipo, como grupo.
De parte nostra, he cambiado casi todos los...
Il nous en dirait long sur 3 siècles d'histoire.
Un, dos, tres, un poquito barato.
Si? Non? Où se sont succédé les Bourbons d'Espagne.
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
Philippe V est un roi complexe.
Vous n'êtes pas content?
Triplé. Chat échaudé, crâne tiède.
Habité par de violentes crises de mélancolie.
C'est vraiment une nouvelle corde, une flèche à notre arc, une nouvelle.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
Plusieurs arcs à son flèche.
Il oblige à vivre reclus aux portes de la folie.
Donc ça veut dire qu'on va faire rentrer dans la posture des successions.
Si les murs du Palais Royal de Madrid pouvaient parler.
Un sera complicado, como siempre.
Demain soir, à 21h05 sur France 2.
Ayuda la diferencia.
Sont dos cosas distintas.
Breaking news.
Alors,
dos cosas difíciles.
Le Real est éliminé de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé aussi.
Oui.
À 27 ans, il n'a toujours pas gagné la compétition reine. Pourquoi? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la malchance? Pourquoi Mbappé ne gagne pas la Champions League 32-16? Si vous avez l'explication, vous venez en parler avec Vincent Moscato. Nous allons parcourir la presse espagnole avec Clément Brossard.
Salut Pierrot, salut Vincent, salut tout le monde.
Alors que se dit-il de cette élimination en Espagne, Clément?
Bon, quel était le visage le plus affiché sur les unes espagnoles ce matin? Assez simple pour le savoir, c'était évidemment le visage de l'arbitre de la rencontre, le Slovène Slavko Vincic, au centre des critiques. Marca le montre sur sa une en brandissant, Vincent, le carton rouge devant Eduardo Camavinga en titrant « Quelle injustice !» et soulignant « Madrid dit au revoir à la Champions avec honneur ». Mais Marca pose une question, est-ce qu'Arbeloa doit rester après une autre année blanche, une sortie avec les honneurs également pour le quotidien AS qui titre « Jusqu'à ce que l'arbitre le veuille », reprenant les propos d'Alvaro Arbeloa aussi, estimant que l'expulsion est inexplicable. Pour le quotidien sport, le Real est à la rue, désastre de Madrid, une nouvelle saison blanche, mais en Espagne, et tu le sais bien Vincent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cao Blanco titre le quotidien pro-barcelonais Mundo Deportivo, qui cible d'ailleurs Kylian Mbappé en disant qu'il a du mal à entraîner une équipe à lui tout seul malgré sa stature de champion. Quant à l'Esportiu, c'est le journal catalan, eh bien, il a choisi de mettre Kylian Mbappé dépité sur sa une, annonçant là aussi la saison blanche du Real, sans coupe, ni supercoupe, ni Ligue des Champions, et à 9 points du Barça, l'équipe d'Arbeloa est en passe de terminer la saison sans aucun titre. C'est ça qu'on peut lire sur la première page. Et c'est ce qui était donc relevé dans tous les journaux ibériques ce matin. L'incroyable échec sur tous les tableaux du Real cette saison.
Parfait, merci Clément. Vincent, bon, il y a cette histoire d'arbitrage, carton rouge pour Camavinga qui est certes sévère, mais qui n'explique quand même pas tout.
Mais 86e.
Le Real ne joue pas très bien cette année.
Non, mais il joue pas bien. Il joue pas bien. Il est dans une équipe qui est
très moyenne. Et un mec tout seul, moi je veux bien qu'il trouve toujours un bouc émissaire, qu'il trouve Mbappé en disant il ne peut pas amener son équipe. Mais qui pourrait amener le Real? Quel est l'attaquant qui peut amener le Real à gagner la Champions League cette année avec cette équipe-là? Avec Neuer, c'est le Neuer.
Il y a des bons joueurs.
Oui, il y a des bons joueurs, mais ça marche pas, Pierrot. Pierrot, quand ça marche pas, ça marche pas. C'est comme ça. C'est en face, ça avait des mecs comme Olysée, tout ça, c'est au-dessus. C'est au-dessus, tu peux. On peut raconter ce qu'on veut, c'est au-dessus, même si à un moment donné, il y a un passage à vide, il fait un bon match, hier. Attention, il fait un bon match, le Real Madrid. Même à un moment donné, tu peux penser qu'il passe devant, hein, en fin de première mi-temps. Tu te dis, les bouches ont changé d'âne, ça va passer.
Les bouches ont changé d'âne.
Mais ça se fait en deux matchs. Le premier match était mauvais, le deuxième est. Et inconstant, ils ont pas une équipe pour. Et Mbappé tout seul, ça peut arriver une fois de temps en temps que t'amènes ton équipe, mais tu peux pas la traîner. On le voit bien que le mal est profond. Ils seront pas champions d'Espagne, ils gagneront pas la coupe du roi. Donc à partir de là, ils gagneront pas la Champions League. C'est rare qu'une équipe qui n'est pas championne d'Espagne, si le Real Madrid ils sont pas champions d'Espagne, ils peuvent pas gagner la Champions League. C'est rare. C'est comme ça que ça fonctionne. Bah ça fonctionne souvent comme non, ça. S'ils dominent pas le championnat, en général l'équipe qui domine le championnat peut arriver. Souvent l'équipe qui a été championne, qui gagne la Champions League, a souvent dominé le championnat, tout simplement. Et donc là, on le voit bien qu'au niveau du jeu, ils sont très faibles. Au niveau du jeu, ils sont très faibles.
Bon, donc c'est le jeu du Real.
Mais c'est le jeu du Real, faut pas, c'est un jeu collectif.
Le jeu du PSG.
Je le trouve très assassin, je le trouve d'abord très con, ces journaux espagnols, de balancer tout sur Mbappé. Mais voilà, c'est tout.
Il défend son kiki.
Denis.
Non, mais c'est vrai, hier, il a fait un bon match. Qu'est-ce qu'il y a quand même? C'est quand même pas un des meilleurs hier. Donc voilà, quand c'est un des meilleurs, j'aurais aimé qu'il souligne, c'est un des meilleurs qui a entraîné son équipe, mais l'équipe était trop faible. Voilà, point.
Denis.
Moi, je suis supporter de Madrid, j'aurais beaucoup de regrets quand tu vois l'équipe jouer hier au niveau où ils ont joué, c'est-à-dire après une saison blanche, parce qu'effectivement, avant ce match d'hier, ils ont été catastrophiques toute la saison, même d'un point de vue collectif. Là, hier, sincèrement, il n'y a pas de chance, Mbappé, parce que là, il est quand même très influent sur le jeu. C'est lui qui amène quand même un peu avec Bellingham, avec certains joueurs. Il amène quand même le Madrid jusqu'à aller presque en prolongation. Ça se joue à rien puisqu'il y a la reprise de volée que le goal détourne, tu sais pas comment, qui le faisait passer à 4-2. Et puis il y a ce carton rouge. Mais c'est pas passé loin hier. Tu l'épopée de Mbappé en Champions League, ça aurait pu se finir en demi, en finale. Il a gagné. Donc ça se joue. Le sport est quand même très irrationnel parce que on le voit encore hier, même si on peut penser que le Bayern est plus fort que le Real, je vous l'accorde. Mais hier quand même, ils ont fait un grand match. On a vu un grand match de foot. Et Mbappé, de tirer tout le temps sur Mbappé, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je veux dire, il le mérite pas trop. Il le mérite pas parce que là, quand il joue, il y a à fond quand même. Tu peux pas lui reprocher ça. Après qu'il se mette pas au service du collectif, on le sait tous. Il a des carences en défense, mais ça fait partie de sa panoplie. Mais moi hier, quand je vois Mbappé jouer, hier, je suis désolé, je vois un grand Mbappé. Je vois un grand joueur de football.
Steve.
Bon, écoute, déjà premièrement, c'est très dur de gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est une première chose. Et tu peux arriver qu'il y a des équipes qui soient supérieures à toi. Et c'est le cas sur la double confrontation, parce qu'il faut quand même rappeler que le Real a pris 6 buts en deux matchs.
Le match aller, il est pour le Bayern.
Le match aller, il est pour Bayern. Alors, je rejoins Denis et Vincent sur la double confrontation contre le Bayern. On peut, c'est compliqué de reprocher des choses à Kylian Mbappé, même s'il loupe une ou deux occasions, mais moi je l'ai trouvé très bon. Face au Bayern Munich. Alors les raccourcis sont forcément faciles à faire, de dire qu'avec Mbappé dans ton équipe, tu n'arrives pas à gagner, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça. L'année dernière en barrage contre City, il met 4 buts en aller-retour. Bon là, il met 2 buts à l'aller, un retour. Pour moi, hier, il a abandonné par Kamavinga, son compatriote, parce que sévère ou pas sévère, tu sais que t'as un carton jaune, tu sais que dans la règle, tu peux en prendre un deuxième en faisant cette connerie-là, t'as pas à la faire, t'as pas à donner l'opportunité à l'arbitre, éventuellement, de te mettre un deuxième jaune. Maintenant, il faut peut-être aussi une remise en cause personnelle sur le côté leadership, au-delà de mettre des buts, sur le côté leadership, sur le terrain, être capable de fédérer autour de toi, parce que hier, il y a encore, dans cette équipe du Real Madrid, des attitudes. On s'est tous branchés avec des coéquipiers sur un terrain, mais c'est un peu récurrent quand même. Hier, c'est Bellingham et Vinicius qui se mettent quasiment sur la truffe parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'un fait pas la passe à l'autre. Il y a quand même quelques signaux qui sont pas bons.
Tu crois que c'est à lui de prendre le leadership? Il en est capable au Real?
Il va falloir qu'il le fasse s'il veut y arriver. Cristiano Ronaldo, il avait gagné avec United, mais il met 4 ou 5 ans au Real Madrid avant de regagner la Ligue des Champions. Le problème, c'est que, et la question que va tout le monde se poser, et que tout le monde va se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une alliance Mbappé, c'est-à-dire très fort individuellement, et un projet collectif tous ensemble. Parce que c'est ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi avec Mbappé. Et le problème, c'est qu'il y a cette lubie. Le Paris Saint-Germain a longtemps vécu avec cette lubie de il faut qu'on soit champion d'Europe. Quand ils ont mis ça de côté, ils y ont réussi, alors que c'était peut-être une année où on les attendait pas de champion d'Europe.
Alors,
et j'ai l'impression que Mbappé, dans la tête, il a cette lubie de la Ligue des Champions.
Pas toutes les générations.
Et le nouveau coach qui va arriver, il va falloir aussi construire des choses autour de Kylian Mbappé, parce que cette équipe, elle a quelques carences, notamment au milieu de terrain. Il va falloir recruter un petit peu de garçons pour l'épauler.
Non, mais ça, c'est...
Quand t'es joueur au Real Madrid, ça doit arriver.
Je sais pas, est-ce que ces histoires de entre les joueurs, ça vient qu'il n'y a pas de taulier. Il n'y a pas le taulier d'abord sur le terrain, parce qu'il n'y a pas le taulier sur le banc. Parce que l'entraîneur, je crois que l'entraîneur fait pas la maille. Il n'est pas respecté, parce que c'est à lui à régler ce problème. À dire qui est capitaine, qui est le leader. Je veux pas qu'il y en ait un qui bouge. Vous, vous entendez pas, vous dégagez. Faut qu'il y ait une autorité. Je pense que lui,
il subit. Mais là, dans ce que tu racontes, Stephen, de ce qu'on se dit depuis 10 minutes, l'entraîneur idéal pour que Mbappé puisse gagner la Ligue des Champions, c'est Deschamps. C'est le seul entraîneur qui arrive à faire avec Mbappé, à tirer le maximum de cette équipe de France. Ça a toujours marché, Mbappé en bleu. Je veux dire, Deschamps sait faire.
S'ils sont pas mauvais, il va y aller.
Mais il faut qu'il veuille, Deschamps.
Mais pour répondre à la question du débat, il y a quand même une part de chance. Parce que quand tu fais le parallèle avec Dembélé. Dembélé, pendant 8 ans, il est à la rue, pas la rue, mais il fait rien.
Il n'avait pas le même statut que Mbappé, Denis. On n'attendait pas que Dembélé qui fasse gagner la Ligue des Champions.
C'est pas le joueur numéro 1.
C'était pas Dembélé.
Quand il arrive à Barcelone, c'est
Messi le joueur numéro 1. Oui, mais il y a Messi, Denis.
Il y a une part de chance qui est énorme, mais il n'y a pas que ça. Parce que regarde, la meilleure année pour Mbappé pour gagner la Ligue des Champions, je pense, à Paris. Je pense finalement, peut-être
quand c'était... Quand tu fais la finale.
Alors, il y avait cette finale, mais il était
blessé.
Mais il y a eu la dernière saison, la première de Luis Enrique, où en fin de compte, ça commence à pas trop mal se passer. Ils ont fait le ménage, comme l'a demandé Mbappé.
Ils font demi-finale.
Il n'est pas bon. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment, quelle est sa capacité, lui, à s'inscrire dans un collectif? Il faut qu'il se pose la question. Puisqu'il est adorable, il est super fort, et puis ça marche jamais. Et toujours de la même manière. Moi, je suis désolé.
Non, mais tu peux pas dire que Mbappé loupe les
grands matchs. À Paris, il y a toujours eu des grands joueurs à ses côtés. À Madrid, il y a des grands joueurs à ses côtés. Valverde, c'est très fort. Vinicius, c'est très fort. Bellingham, c'est très fort. Faut arrêter de fantasmer sur il n'y a pas assez de joueurs. Non, c'était la même chose à Paris.
Il faut trouver
une solution pour que ce mec soit non seulement le buteur, mais aussi, comme le dit Vincent, le leader. Qu'il se viande pour lui. Ça ne doit pas être lui le leader. Ça doit être juste un buteur.
Il ne faut surtout pas que ce soit lui le leader.
Voilà, c'est peut-être ça.
Un mec qui mouille le maillot. Un Deschamps, c'est pas Zidane. C'est Deschamps, capitaine. Il faut que ce soit un leader de sang, de sueur.
Mais comment tu fais aujourd'hui en équipe de France?
Et lui, il faut qu'il soit à l'écoute. Mais... Qu'est-ce que t'attends? Lui, il faut qu'il marque des buts. Donc, c'est un mec qui contrôle tout et qui fait le collectif, qui a de l'autorité.
C'est compliqué de trouver un joueur capable d'être dans le leadership qu'un Mbappé.
Lui, il doit arrêter d'être le centre du projet tout le temps. C'est ça la solution.
C'est compliqué parce que médiatiquement et par rapport à tout, maintenant, la communication et tout, les mecs sont de plus en plus individualiste. Et pour un entraîneur, crois-moi, ce que fait Luis Enrique, je vais te dire un truc, il ne faut pas que le PSG perde Luis Enrique.
Après, c'est une question de chance, Vincent. C'est une question de chance et de génération. Cristiano, la dynastie Zidane, Cristiano, le taulier de l'équipe, c'est Sergio Ramos. Voilà, t'as pas de Sergio Ramos. Capitaine, libéraux. Et Cristiano n'était pas le leader de l'équipe, c'est le leader technique, mais pas de.
Mais tu te rappelles Messi, les mecs qu'ils avaient, Pouillon, les compagnies, les tauliers.
Ça, c'est une question de chance.
C'est des mecs de personnalité, des tauliers.
Tout Messi qu'il est, peut-être meilleur joueur de tous les temps, quand lui aussi a pris trop de place au Barça, n'importe quoi.
Il y a quelque chose qui était très important et intéressant dans les médias espagnols ce matin. Il faisait la comparaison par rapport à la brouille entre Vinicius et Bellingham en disant à l'époque de Cristiano Ronaldo, je pense que personne n'aurait dit à Cristiano Ronaldo ou à un Toni Kroos notamment, tu m'as pas fait la passe. Donc là aussi sur la stature, un Toni Kroos n'est plus là aujourd'hui, mais c'est ce que représentait aussi un modèle de leadership.
Un taulier. Pareil.
Alors, 36, Pierre, supporter du Paris Saint-Germain. Bonjour Pierre.
Salut Pierre.
Oui, t'as qu'à parler avec tes copains derrière plutôt que parler à la radio.
Voilà. Pierre, tu as l'antenne.
Pierre, tu nous entends, de Toulouse.
Salut Pierre.
Il en avait marre d'attendre, il a posé le téléphone.
Pierre, reprends une suze.
Peut-être si on se tait et qu'on écoute, on va entendre des
bruits.
Salut Pierre. Ah, il faut éteindre la radio, Pierre.
Je ne t'entends pas, les gars.
Il faut éteindre la radio, là. Il faut arrêter, là. Ah, tu nous écoutes, là, ou quoi?
Ah, mais là, il y a une blague, là, avec ses copains.
Bon, alors d'abord, il faut éteindre la radio derrière.
Ouais.
Bon, ouais, c'est pas grave, on est un Pierre, du coup.
On est un Pierre. Ouais.
Dommage.
Bah, Pierre, vas-y, prends sa place.
Bah, écoute, moi, je vous ai... Alors, Pierre, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. C'est un joueur très fort, mais il annule les collectifs.
Mais
c'est,
non, mais je suis pas
c'est terrible.
Moi, je suis pas d'accord avec
c'est toi, terrible parce qu'il ne fait pas exprès.
Moi, je suis pas d'accord
avec toi. Non, c'est comme ça.
Non, mais t'as pas la réponse si Mbappé était resté. Il aurait peut-être été champion d'Europe aussi. Non, mais là, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas vrai.
Moi, je crois que c'est pas vrai. Le seul qui aurait pu le faire marcher, c'est Luis Enrique.
Non, mais c'est pas vrai. Souviens-toi du cirque de la dernière saison. Il y avait Luis Enrique, il le sort à la mi-temps de Monaco, il fait son cinéma, il fait son cirque, il se met en scène.
Il y a un problème financier, Piro, tu sais très bien que c'est un problème financier.
L'histoire, elle était terminée.
Kylian Mbappé a avoué aussi dans le podcast de Aurélien Tchouaméni que la dernière année avec le Paris Saint-Germain, Tchouaméni, il avait la tête au Real Madrid et que pour lui.
C'est fini, l'histoire a été finie.
Je dis, si tu imagines qu'il reste dans une bonne ambiance.
Non, c'est pas vrai.
Moi, je le crois. Je crois
au début tout se passait bien, hein, donc.
C'est ce que je te dis.
À partir du moment où lui a pris trop de place, que c'est parti en sucette.
Mais après, il y a un côté quand même. Moi, je suis le mec du PSG. Je suis un peu méprisé. Le mec toujours son rêve pendant 2-3 ans, c'était d'aller au Real.
Mais donc l'histoire était finie.
À un moment donné,
il
faut
le garder. Il n'a pas le garder.
Tu ne peux pas être dans un club et penser toujours et raconter à qui veut l'entendre.
Moi, mon rêve, je suis d'accord avec toi.
Je suis un mec d'un autre niveau. Je suis au Real. Tu vois, c'est ça. Parce qu'un peu, la musique, elle est là. C'est un côté un peu méprisant. Moi je suis
c'est comme toi, t'étais un grouillé, tu disais je rêve d'aller à l'Albi.
Oui, mais ils ont tout accepté. Ben ça, je suis d'accord avec toi, mais ils ont tout accepté quand
c'est
même.
La c'est la faute de qui?
De Nicolas Sarkozy, qui a appelé Kylian en disant faut que tu restes au Paris Saint-Germain.
Non, mais Vincent,
parle pas peut-être d'un des meilleurs présidents de.
Vincent, Vincent, le truc, c'est que.
C'est Emmanuel Macron.
C'est Macron qui a fait.
Tu as raison d'incriminer Mbappé, mais surtout, il faut incriminer les dirigeants qui sont fait marcher dessus.
Toujours, c'est toujours. Mais. Oui, Denis, oui, ils ont fait n'importe quoi. Mais lui, ça ne l'excuse en rien.
Voilà.
Quoi que ce soit.
Il peut aussi être un leader, et un mec qui se tient bien, et un mec qui n'a pas d'histoire, et un mec qui marque comme il a fait au début avec le PSG, et c'était super. Et là, on voit que maintenant, le problème, c'est que, un problème de l'âge, les mecs, mais le statut est complètement différent. Je me mets à sa place. C'est pas facile d'être le mec, un des mecs les plus connus au monde. Parce que la vérité, elle est là. C'est que le mec, c'est peut-être un des mecs les plus connus au monde. Et crois-moi, c'est pas pareil quand tu vois des fois, nous, certains mecs qui font de la radio, qui deviennent des stars, et qui après. Non, mais je parle pas pour toi, Steph, mais quand même, qui après sont difficilement contrôlables.
Il y a une scène qui revient beaucoup, Pierrot aussi, c'est la prise de parole en conférence de presse de Kylian Mbappé il y a quelques années, souvenez-vous, au Parc des Princes, je crois, avec le Paris Saint-Germain, où il disait ah, si vous me parlez de gagner la Ligue des Champions, moi je serais déjà loin.
Oui, je serais
parti ce matin, c'est beaucoup ressorti.
Mais bon, à la limite, ça s'est fait retourner du
bateau.
C'est plus
anecdotique. On parle à des mecs qui ont 23, 24 ans, 25 ans, qui te sortent des conneries, qui interviewé tous les jours. Le mec qui n'est jamais interviewé, il risque pas de te sortir
le
corps.
C'est plutôt une maladresse parce que je pense quand il a dit ça, il voulait plutôt afficher son amour pour le PSG.
Oui, mais bon, c'est ressorti
j'en reste quand même parce que malgré tout, j'ai envie d'être là.
Tu le micro, au bout d'un moment, tu vas me faire une belle. Dis-toi bien.
Crois-moi,
c'est quelque chose, au bout d'un moment, tu vas voir le pauvre Roussel. T'as vu le pauvre Roussel?
Toi, t'en fais pas beaucoup.
Pas trop.
Toi, ça va.
Après, des très grands joueurs qui ont jamais gagné la Ligue des Champions, Ronaldo, Ibrahimovic, ça existe.
Alors attention, parce qu'il y a une stat qui commence à faire tâche, il entre dans le top 10 des joueurs qui ont joué de matchs de Ligue des Champions sans la gagner.
Ah ouais.
Les deux premiers étant Buffon et Zlatan. 124 matchs.
En tout cas, ça veut dire qu'il les joue, la Ligue des Champions. Il joue les matchs. Quoi.
Non, et puis, il va loin. Ouais. En tout cas, tu as dit qu'il n'était pas bon l'an passé, je suis d'accord. La première saison avec le PSG en demi-finale, il n'a pas été bon.
Non.
Parce qu'il a la tête ailleurs, sûrement. Non, mais il a toujours été bon dans les grands matchs, Pierrot.
Pas toujours.
Non, mais souvent.
Ce que tu risques.
Souvent.
Non, mais alors,
pas toujours, c'est une légende. Très souvent.
Non, non, c'est pas une légende.
Non, il y a
un match compliqué aussi.
Plusieurs cases à cocher. Et ça, c'est important. Un bon mec de la stature, il doit être bon individuellement, marquer des buts, mais être aussi un leader, un mec d'équilibre pour son groupe et tout ça. Oui, mais il n'a pas, mais c'est ce qui lui manque, ce qu'on lui reproche, qui peut-être dans un collectif.
Que lui expliquer Luis Enrique.
Hier, il est toujours bon, mais son équipe, elle ne s'en sort pas. Et puis, qu'est-ce que je te dis? Il est toujours bon, PSG était toujours bon, mais ils ne sont pas champions d'Europe. Donc là, il faut se poser une vraie question. Est-ce que lui, il influe assez comme les grands joueurs, comme Ronaldo, comme même Benzema qui a influencé sur son groupe
énormément.
Et voilà, donc est-ce qu'il a influencé? Moi je pense que non.
Et depuis, c'était la cata au Real. Hein. Après cette élimination, tout est parti en sucette.
Cette conférence de presse lunaire de Florentino Pérez, c'était incroyable.
C'est fou. Allez, on revient tout de suite avec Antoine Dupont.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show dans une demi-heure, le débat que vous attendez tous si vous ne l'avez pas encore entendu. C'est Antoine Griezmann qui va arrêter le football de très haut niveau à la fin de la saison, qui a arrêté, disons, qui est déjà aux États-Unis à Orlando. Alors à quelle table s'assoit-il au buffet du foot français ? Avec Zizou, Platini et Mbappé ?
Ouais.
Rendez-vous à 16h. Avant cela, il y aura eu le Journal Moyen, première édition.
La première édition du Journal Moyen avec plein de saucisses comme d'habitude. Apolline de Malherbe, petite saucisse, petite mâchoire paralysée pour Apolline dans quelques minutes.
Mais d'abord, parfois Dupont fait des moins bons matchs. C'était le cas contre l'Écosse. Nous devait-il une revanche après cette rencontre ?
J'aimerais faire rimer l'ordinaire avec l'extraordinaire.
Un match, j'essaie de faire les bons choix de jeu. Et vous, pour vos outils ?
Un jeune homme ordinaire par le nom.
Antoke Ponto, Gantikopoulos, Antetokounmpo, Antikopoulos.
Mais extraordinaire par le talent.
En fait, t'as des individualités.
Des individualités.
Ce joueur dont certains se demandent s'il n'est pas le meilleur de l'histoire.
Ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out.
D'autres, c'est pas révolutionner le rugby.
Quand on peut expliquer les choses, pas expliquer le rugby.
Comment un jeune campagnard est devenu une star internationale du rugby ?
Il a été stratosphérique.
Il a été stratosphérique.
Autant aimé pour ses performances.
C'est un moment exceptionnel du rugby français.
Et pour son tempérament.
Il est nul avec Grenoble, il est nul avec Toulon, il est toujours nul.
RMC, le Super Moscato Show. Spécial Crunch.
Bernard. Ce rire, à chaque fois qu'on l'entend, Eric limite dans la foulée.
Ah, mais ça me fait mourir. Ce truc me fait mourir. C'est tellement intelligent comme rire.
C'est ça qu'on appelle les casseroles.
Ça te suit. C'est la
casserole. Pas les mêmes, Eric.
C'est le spécial.
Oui. Non, mais on en a tous.
C'est le spécial rugby du jeudi avec Midi Olympique. Et donc, nous accueillons Pierre-Laurent Gou du Midol. Salut Pierre-Laurent.
Salut.
Comment il va ?
Salut à tous.
Pierre-Laurent.
Et monsieur Templier. Wilfried de Cellule Rugby RMC Sport. Alors, pour la première fois, donc on a vu un Antoine Dupont rater un match avec l'équipe de France contre l'Écosse samedi. Je pense que quand je dis la première fois,
Je n'ai jamais vu.
C'est le seul.
Alors, est-ce qu'il nous doit une revanche, Antoine Dupont ? Vincent règle le problème, 32-16 pour débattre avec nous. Wilfried, on va y revenir sur ce match. Dupont n'était pas dans les standards habituels face à l'Écosse.
Bah non, autant il avait été étincelant, on va le dire, depuis le début du tournoi quand même, contre l'Italie notamment. Autant en Écosse, on n'a peut-être jamais vu, comme tu dis Pierre, Antoine Dupont afficher ce visage-là. Il y a un secteur qui en dit beaucoup de sa prestation, c'est son jeu au pied. Sur les trois premiers matchs, sachez que Dupont a fait en moyenne progresser l'équipe de 450 mètres par match. C'est important parce qu'en Écosse, c'était à peine plus de 150 mètres. Et souviens-toi, Denis, en début de deuxième mi-temps, c'est un faible dégagement de sa part qu'on voit jamais, qui laisse les Bleus sous pression et amène l'essai de Ben White. Et puis, il y a eu deux erreurs majeures. 51e minute, il porte trop le ballon. Il se fait intercepter sa passe par l'ailier Kaisten qui va marquer. 63e, il rentre le ballon dans son but. Il veut pas dégager. Et adresse une longue passe sautée en avant pour Atis Ogbe, derrière mêlée et essai en première main de Tom Jordan. Selon l'entraîneur des avants William Servat, pas besoin d'expliquer ça à Dupont.
C'est quelqu'un qui a vu toutes les situations et qui connaît exactement son match. Et à la fin du match, honnêtement, il n'y avait pas de débriefing à faire. Mmh. Il savait exactement où il en était parce que c'est un grand joueur. Il fait partie de ces joueurs qui sont des grands joueurs de terrain, sur le terrain de rugby, évidemment. Mais il fait partie de ces joueurs qui sont passionnés et impliqués depuis toujours dans le rugby. Et il sait très bien où il en est. Et je n'ai aucune inquiétude sur sa capacité à rebondir. On parle d'une performance qui est plutôt moyenne, mais on est tellement habitué à ce qu'il fasse des choses qui sont extraordinaires qu'on a l'impression que le monde s'écroule, mais le monde ne s'écroule pas.
Dupont n'a pas pesé. Dupont s'est même énervé devant le chambrage de son vis-à-vis Ben White, lequel est venu quand même face à lui parler dans la bouche, on va dire.
Ils avaient vu se prendre la tête après le match.
À la fin du match, donc le Français n'a d'abord pas voulu lui serrer la main, mais ils se sont expliqués derrière, mais de manière véhémente du côté de Dupont, mais inhabituel quand même. Et ça, le sélectionneur Fabien Galthié l'explique.
On est des êtres humains. L'équipe de France, c'est une équipe d'êtres humains. Donc on a des émotions, on est parfois très bon, parfois on l'est un peu moins, parfois on a la réussite, parfois on l'a pas. Et donc Antoine est aussi un être humain, même s'il est aujourd'hui un joueur exceptionnel. Et donc par moment, il a des passages plus compliqués. Mais il assume, comme nous assumons aussi nos performances, les bonnes comme les mauvaises. Et ce qui s'est passé pour Antoine, c'est il y a rien de grave, il y a rien de particulier. Il en a conscience. Et puis ça fait partie d'une expérience, d'un vécu, d'un chemin.
Et oui, finalement, le Martien, Vincent, comme l'appelle son coéquipier Cyril Bail, le Martien est humain.
Attends, juste une précision, Wilfried. Lorsqu'il dit tout ça, c'est pas très grave. Il parle de l'embrouille ou de son match.
Ouais, la question, je vais parler de cette embrouille aussi, notamment.
D'ailleurs, tiens, avant de faire le débat sur Dupont lui-même, comment vous réagissez quand vous voyez que Dupont serre pas la main de Ben White, qui a dû lui prendre la tête tout le match, hein?
Non, que fait Eric à ce moment-là, si l'adversaire vient lui parler dans la bouche et lui tend la main à la fin du match?
Non, mais c'est le rugby.
Il est rageux, mais parce que
tu serres la main, en général.
Oui, mais là, il est rageux parce qu'il a loupé son match. Il a loupé son match.
Et puis, c'est Vincent qui vient de manger la Yoli, je le prends mal aussi. Hein.
Mais non, mais Antoine n'a jamais fait une prestation comme ça.
Non, mais juste sur l'histoire de la poignée de main.
Oui, mais Pierrot, il donne tout le même.
Non, mais moi, je comprends, il n'y a pas de soucis, je voudrais avoir votre avis. Parce que c'est du rugby, c'est pas.
Ça arrive à tout le monde, c'est le comportement humain qui fait que.
C'est humain.
C'est la marque des grands champions. Donnez-moi un grand champion qui est bon perdant. C'est preuve que c'est un grand champion.
Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il est tombé dans le panneau de Ben White. En fait, moi, je n'avais jamais vu Dupont.
Là, oui.
Céder à la provocation, non, il n'a rien à faire, il est froid. Là, il est tombé dans le panneau direct.
Mais quand t'es pas bon, tu tombes.
Ouais, mais justement,
je vous pose une question. Là, c'est peut-être moi qui suis parano et rageux.
Ouais.
Mais quand Ben White lui tend la main dans la haie d'honneur, il vient vraiment de manière ostensible dire allez, on serre la main. Est-ce que c'est pas l'ultime provocation du match?
Pas du tout. Il va le chauffer, Pierre, c'est un demi-mêlée. Ben White chauffer, bien sûr.
C'est un demi-mêlée.
Il va le chauffer.
C'est une merrouille.
Là, je suis pas sûr.
Mais non, mais c'est que du bonheur d'aller le chauffer. Bien sûr, tu vas le voir.
C'est le meilleur joueur du monde.
T'es numéro 9. T'es un bon joueur, très bon joueur, il n'y en a que pour Dupont.
Et t'arrives
tu te
travis,
t'as la même génération que Dupont. Tu peux faire un bon match à Toulon, être extraordinaire. On s'en fout de toi. On pense qu'à Dupont. Et là, tu fais un match énorme. Tu le lundi dans l'équipe, tu dis, mais il y aura un gros titre, non? Le gros titre, c'est. Hop, t'es dans, ça avait les stars, Dupont, avec machin, il était là. Il était invité au trophée d'Amérique, à Vincennes, tout ça. Et l'autre, il a fait un match extraordinaire. Bon, d'un moment, le mec. Il était à la fashion. Oui, qu'il a mis un truc là, qu'il y va comme une serre-tête, un cochon, un ramanteau, tout le monde est allé. Et l'autre, quand il s'entraîne tous les jours, il fait des bons matchs, rien anonyme. Tu comprends bien que s'il a pu le coïncider en disant qu'il avait été nul, c'est humain. Il a été nul, c'est Nib.
Nib.
Nib. C'est le contraste de nul et Nib. Voilà,
juste ton avis, Eric, toi qui avais une capacité à te chauffer rapidement.
À moi qui suis très fair-play et qui est toujours truc, mais moi j'ai quand tu perds, t'as envie de te battre, si le mec il vient de il a pas filé une tarte, il a pas serré
mais c'est quand même parce que c'est un sport où ce genre de choses est traité un peu différemment que je vous pose la question.
Oui,
mais
il n'y a pas l'habitude avec Dupont surtout.
Après, moi
il devait être très énervé après moi.
Voilà, il devait être énervé après Ben White, mais moi je pense qu'il était énervé aussi après sa performance.
Oui,
mais parce que les mecs, voilà.
Mais après, c'est vrai que quand un mec se dit.
N'oubliez pas.
Comme disait Adrien.
Il lui coffre le grand chelem, hein.
Oui, et moi, je trouve que, comme disait Adrien, c'est que Ben White le fait sortir de son match. C'est-à-dire que les provocations. Et c'est la première fois qu'on a vu. C'est vraiment un marqueur. Et c'est là où. C'est une sorte de talent de l'Écossais. Où, en fait, il sentait qu'une certaine fébrilité ce jour-là d'Antoine Dupont. Et il a réussi.
Mais c'est vrai que quand un mec te chauffe tout un match, t'as pas trop envie de lui serrer la main. Là.
Non, il ne fait pas sortir de son match, mais il était pas sur l'assiette.
Alors, Vincent, est-ce que Dupont nous doit une revanche, entre guillemets?
Non, il nous doit rien, surtout. Il se doit lui-même de remettre cette équipe sur les rails. Et puis voilà, c'est tout. D'abord et tout, mais on peut pas dire, il nous a tellement gâté quand même. Il a hissé le rugby à un autre niveau. Il a hissé ce poste-là à un autre niveau, le rugby même à un autre niveau. Parce que c'est le meilleur du monde. Automatiquement, il y a un éclairage sur l'équipe de France qui est due en partie avec lui, c'est grâce à lui. Donc il ne doit rien du tout, surtout qu'il se mette
frais. Il va être bon samedi.
Et qu'il reste encore 5-6 ans à ce niveau, il va être très bon samedi. Samedi, il va péter le.
Il
n'y
a pas le risque qu'il se joue
face à quel demi-mêlée déjà?
Tu m'as volé la réponse hier.
Ben Spencer.
Bien, joli vol, bien joué.
De la famille de qui?
Ben Spencer
qui était italien et qui était champion de natation.
Voilà.
Tout à fait.
Denis, est-ce qu'il nous doit une revanche?
Ce qui est drôle, c'est quand même, Vincent, on en a parlé la semaine dernière, avant le match de l'Écosse, et on parlait de Dupont, on disait, mais Dupont, il a toujours 16 de moyenne à chaque match. Et quand des fois, il a 22 sur 20. Non, mais c'est vrai, tu dis, mais il est jamais neutre,
jamais mauvais.
On disait, on était étonnés. Et bien, ça arrive. Tu donnes compte, ouais. Pour moi, c'est un accident. En fait, c'est un accident qui, à la fin de sa carrière, tu verras, Antoine, il y aura eu un ou deux accidents.
Tu verras, ouais, c'est tout. C'est tout.
Droit,
tout. Mais je suis même pas. Ouais. Je suis même pas. Mais par contre, je pensais. Alors là où je suis étonné, c'est que je pensais que j'y en aurais jamais. Et c'est vrai que.
À ce point-là, quoi.
Ah oui, à ce point-là. Et en direct, quand on le commentait avec Will, oui, on était même surpris. On se disait, putain, c'est pas Antoine.
Match, quoi.
Non, mais c'est le fantôme d'Antoine. C'est vrai qu'il a pris des décisions qu'il ne prend jamais.
C'est son frère.
Le
son frère.
Le jeu. Le jeu au pied, il a fait le début de tournoi, il était extraordinaire au pied, tout d'un coup, tout se délite. Son jeu, sa précision, sa vision, il était emprunté, lent. Moi, je crois qu'il était fatigué, je pense qu'il a été un peu malade
une semaine.
Je pense qu'il dit, lui, il dit que non. Moi, je pense qu'il a porté
C'est là où c'est un grand champion.
Oui, il dit non,
pas d'excuses. Sûrement qu'il y a eu quelque chose.
Moi, je suis persuadé.
Il n'y a pas de souci.
Moi, je suis persuadé qu'il n'était pas dans son assiette,
qu'il était hors
du coup et qu'il y a une raison à ce non-match, ce mauvais match.
Soit c'est ça, soit un problème de cœur, soit un contrôle fiscal.
Non, le cœur, ça va.
C'est contrôle fiscal, ça.
C'est pas
important. À un moment,
qu'est-ce qui est le pire?
T'as 15 jours, 3 semaines où tu batailles un peu.
Qu'est-ce que tu préfères, toi?
Problème de cœur ou contrôle fiscal, quel est le pire?
Alors, sur un contrôle, un problème de cœur, tu peux le résoudre en 15 jours, toi. Par contre, les autres, ils sont sur toi pendant 3-4 ans.
De cœur, tu peux négocier, quoi.
Crois que c'est comme un divorce, tu te prends la moitié.
Mais, par contre, problème de cœur réglé en 15 jours, t'es fort, hein.
Non, oui, mais problème de cœur, pas les problèmes de cœur.
On va donner des conseils à Denis, hein.
Non, oui, non, mais Denis, c'est pas un problème de cœur, c'est autre chose.
Pierre-Laurent Gou.
Pour moi, ils nous doivent. Encore une revanche, parce que.
T'as divorcé, toi, Pierre-Laurent?
Non, pas encore.
T'as quel âge?
La cinquantaine.
Ça va passer.
J'ai pas vécu encore la crise de la cinquantaine.
Allez, Antoine Dupont.
Plus sérieusement, Antoine Dupont, mais aussi les Bleus, ils nous doivent une revanche parce que j'écoutais Denis avec attention, mais ce match, on s'en souviendra dans 10 ans. C'est pas tout le temps qu'on prend 50 points face à l'Écosse. Alors, il y a cette fin de match un peu où on a l'impression que les Écossais étaient déjà. Revoyez les images de Peter De Villiers qui était 10 minutes avant la fin.
Qui
faisait des blagues avec ses collègues anglo-saxons. Donc, je pense que Antoine, mais aussi les Bleus nous doivent une revanche parce qu'on a pris une vraie claque en Écosse et notamment sur la physionomie et que voilà, on a envie, c'est comme vous l'avez dit, c'était pas Antoine mais c'était pas l'équipe de France non plus la semaine dernière.
Peter De Villiers, c'était pénible.
C'est un très grand joueur, c'est un mec très respectueux, c'est un beau mec très carré,
c'est peu courant. Tu as raison, ils étaient contents d'avoir gagné, mais ce qui a marqué, ce qui nous a marqué, nous, la réaction du milieu olympique, c'est que comme le dit Vincent, Peter De Villiers, c'était plutôt un taiseux, quelqu'un un besogneux dans le bon sens.
Tu sais pourquoi il rigole? Parce qu'en fait
il était tout sourire, parce qu'en fait il était surprise.
Non, il rigole, moi je sais, il se moque, mais gentiment, de Finn Russell, qui à ce moment-là réussissait tout ce qu'il faisait à la fin. Il réussissait tous ses coups de pied. On sait que Finn Russell, parfois, il y a une fève, tu vois. Il disait à ses collègues, même lui, il a 100%.
Ça montre aussi, Adrien, leur état de concentration,
bien sûr,
leur état de déconcentration. C'est qu'ils avaient déjà un match gagné.
Ils ont bien joué, mais une belle équipe corner, quand même. Ils étaient corner, je te l'ai dit.
Vincent et Denis, bien sûr, le diront jamais parce qu'ils n'ont pas le droit de critiquer Dieu. Mais nous, comme Pierre Laurent, on peut le dire, bien sûr qu'il nous doit une revanche. Bien sûr, quand tu as ce genre de match pour gagner le Grand Chelem, que tout le monde attend et qu'on a même considéré comme une obligation, et que tu tombes d'aussi haut, et j'aime bien la parallèle de Pierre Laurent, puisqu'il dit l'équipe de France en général doit nous une revanche. Mais bien sûr, mais c'est le propre même des grands joueurs et des grandes équipes, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le débat pour qu'ils sachent eux-mêmes.
Mais c'est pour ça que j'ai pas répondu par l'affirmative.
Non, mais vous n'avez pas le droit, parce que sinon, si vous faites pas des lipettes.
Mais non, mais je t'ai répondu, moi je t'ai dit que c'est très bon.
Non, mais si vous faites pas des lipettes, vous êtes banni. Vous êtes banni de l'Ovalie, donc après, c'est plus.
On n'a plus de place, ça, c'est déjà fait.
On ne veut pas dans la provocation, Denis, enfin.
Donc, vous êtes. Donc, si vous faites pas les lipettes, vous êtes sorti de la truc, donc on a connu l'histoire. Mais nous, on est libre avec Pierre Laurent. Avec Pierre Laurent, on est libre, nous. Voilà.
Exactement. C'est la presse libre.
Tu finiras avec
voilà, nous, on est la presse libre, nous. On est la presse libre.
Tu finiras avec Adrien, toi. Il y a Edwin Plenel qui m'a appelé pour avoir le numéro d'Éric Dimeco.
Penel.
Penel,
con. Et donc, oui, J'ai peur de toi. Non, mais putain, ça doit être bien de travailler à Mediapart quand même.
Alors là,
tu es du beau côté de l'histoire, là, Pierrot. C'est bien, là, tu peux y aller, là.
Attention, l'histoire est jouée à ton trappe. Attention. Faut toujours se méfier de ça.
Non, mais bien sûr qu'il nous doit et ils nous doivent une revanche parce qu'on ne peut pas croire que ce qui s'est passé est la réalité de l'équipe de France. Et si jamais ça venait à se reproduire contre l'Angleterre, et on l'a fait le débat, ça remettrait en cause beaucoup de choses, voire même ce qu'on pensait de cette équipe là, c'est-à-dire de tout ce qu'on a dit sur le niveau de cette équipe là. Voilà, tu vois, de sur la qualité, sur le niveau de cette équipe là. Donc et ça nous ferait même mal. Donc ils nous doivent une revanche,
bien sûr.
Antoine
Dupont doit-il une revanche? Alexandre 32-16.
Salut Alexandre.
Oui, bonjour. Bonjour.
Et comment il va Alexandre?
Bonjour Alexandre.
Ben Alexandre, il va bien, mais j'ai mal à mon moscato chaud, les gars.
Hein. Ah ouais?
Oh, alors, oui, ça, mais non, mais toi, tu dois être libre sur le sujet.
Vas-y. Je comprends même pas pourquoi on fait le débat.
Pourquoi?
Ben, parce qu'en fait, Antoine Dupont, mais vous l'avez dit déjà, c'est pour ça que je suis un peu plus réconcilié avec vous. Depuis 10 ans qu'il joue, il a souvent été exceptionnel. Il a été parfois bon, voire très bon. Il a été une fois ou deux moyen. Et là, c'est un naufrage collectif dans lequel il a sa responsabilité, mais comme tous les autres, en fait, j'ai envie de dire. Et donc, moi, j'ai envie de prendre le contre-pied de vous et de faire, en fait, une union nationale autour de Dupont pour finalement, il se rende compte que, bien sûr, qu'on lui en veut pas.
Mais on n'en est pas là.
Personne n'en veut.
Il dramatise, là.
Denis en veut.
C'est notre étendard. C'est notre étendard.
Mais tu nous as pas écouté avec Vincent. On a dit l'inverse avec Vincent.
C'est pas parce qu'on pose la question qu'on est inquiet pour Antoine Dupont.
Moi, je te dis un truc. On va résumer ça comme ça. Si, on perd contre l'Angleterre. Avec l'année responsable, mon Valérien,
moi, je pense qu'il faut l'envoyer au front. Il faut l'envoyer au front.
Denis, il y a un mini risque peut-être sur le. Mais il le sait, il en est conscient. Mais c'est qu'il ne faut pas qu'il surjoue samedi. Parce que de temps en temps, sur certaines séquences, Dupont, parfois, avec Toulouse, et c'est bien, il a tendance à vouloir jouer au super-héros. D'ailleurs, son action, il fait la passe dans l'embut, Denis. Il a une attitude de sétiste. T'as l'impression qu'il cherchait une solution pour essayer de trouver une brèche. Il la trouve pas. Bon.
Tout ça, c'est la faute des JO.
Non, mais c'est.
Non, mais quand
parfois, je chipote évidemment, mais parfois, sur certaines séquences, il peut surjouer, ça arrive.
Oui, mais comme tu le dis Adrien, sur certaines séquences, notamment c'est vrai que le Stade Toulousain part, mais il sait aussi se reprendre. Donc moi, à l'inverse de d'autres, je pense Antoine Dupont va surjouer samedi, parce qu'il a un vrai sens du collectif dans le bon sens du terme, mais c'est pas de la langue de bois. Et je pense que s'il sent que lui n'est pas capable de faire la différence individuellement, il fera jouer les autres.
Avec conclusion de Vincent Moscato.
D'abord, c'est ça la presse libre. Je vais te dire. Il n'était pas. Moi, je vais vous dire le truc. D'après moi, il est déjà sur les Jeux Olympiques 2028. Il est plus là.
Mais non, mais
il est plus là. Et non, mais il est plus là.
Raison,
je te le dis. Hein.
Ça, c'est jamais.
Antoine, c'est vrai qu'on avait perdu en Écosse. On s'en souvient plus de ça.
On l'attend.
On a gagné le tournoi quand même.
On l'attend à la Coupe du Monde maintenant, Antoine Pierrot.
À son meilleur niveau, sinon on a aucune
chance. Un peu plus d'un an, c'est la Coupe du Monde de rugby en Australie. D'ailleurs, toute l'année, toute la saison. On va, comment tu dis toi, monter en puissance sur cet événement incroyable.
Avec peut-être des surprises dans la Dream Team.
Oui, c'est encore en pleine négociation, mais il peut y avoir du très lourd qui nous rejoint dans la Dream Team Rugby du super Moscato Show.
Allez, on revient tout de suite avec le journal moyen.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Vous êtes sur RMC, il est 15h45, c'est donc l'heure du journal moyen, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, des mâchoires paralysées. J'aime ces lundis où le journal moyen vous offre des mâchoires paralysées. Ça s'est passé dans la matinale ce matin. Un joueur de foot se lance dans le théâtre, on connaît bien. Et puis si on a le temps, un petit tu préfères de chez Estelle Denis. Vous écoutez RMC, c'est le 2494e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction de RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. première édition.
J'ai donc écouté Apolline matin. Ça se passe le matin, entre 7h et 9h sur RMC et RMC Story. Magnifique mâchoire paralysée d'Apolline de Malherbe. Il est 7h47, Vincent, sujet sur des taxes, les taxes en France. Un chef d'entreprise, Jérôme, appelle au 3216. Il raconte son expérience. Il dit qu'il a payé la même taxe deux fois. Une sorte d'imbroglio administratif, fiscal, ce qui peut arriver. Apolline, attention, attention à la mâchoire sur l'imbroglio. Apolline.
Je paye une deuxième taxe sur le même logement, puisque c'est ma maison.
Et on se retrouvait avec parfois certains, et vous avez été nombreux à témoigner, qui disaient que vous deviez payer ça, alors que parfois même, vous l'aviez déjà payé une première fois, mais c'est devenu un imbroglio. Oui, embrouillamini, je crois que c'est le mot que je cherchais. J'ai mélangé, non, c'est ça, l'imbroglio et l'embrouillamini. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre témoignage.
Ça va, là, on est sur une belle mâchoire, Apolline. Bienvenue.
Apolline se lève très tôt.
On peut se refaire un peu plus court, moi j'aime bien les mâchoires comme ça.
Vous deviez payer ça, alors que parfois même, vous l'aviez déjà payé une première fois, mais c'est devenu un imbroglio.
Imbroglio,
je crois que c'est le mot que je cherchais. J'ai mélangé, non, c'est ça, l'imbroglio et l'imbroglio. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre témoignage.
Vous imaginez, si nous, on faisait l'émission le matin,
alors il est mignon.
Denis, le matin, à 7h,
quoi. Il est mignon, je te montre un
moment. Toi, Denis, à ton avis.
Parce que ça, c'est irréprochable.
Non, mais
sélectionneur national de football.
Moi, je suis bien, moi. Moi, le matin, je suis plein bas de moi.
En plus, Vincent, le matin, il est bonne humeur.
Moi, je suis plein bas de moi. Voilà.
Ouais. Sans radio sport. Faire des éditos le matin, toi.
Voilà. Oui. Ouais. J'ai écouté des grandes gueules.
Je pense qu'on aurait des avertissements de la direction, mais je pense que le matin, ça irait.
J'ai écouté les grandes gueules du GG, nos copains, 9h midi, RMC, RMC Story. Ils évoquent les problèmes d'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont parlé un peu de foot. Et Didier Giraud est présent. Didier qui veut faire référence à l'émir du Koweït. Vous vous souvenez, en 1982,
Qui avait rentré sur le terrain.
Il avait fait annuler un but en pleine Coupe du Monde. Des histoires incroyables de grandes compétitions. En revanche, monsieur Giraud, je crois qu'on est sur un petit problème de.
Il y avait Hidalgo.
Il y avait Hidalgo, Michel, bien sûr, qui était fou de rage. En revanche, monsieur Didier Giraud, agriculteur des GG, il n'est pas prof de géo.
Un but au français,
ça c'est en Coupe du Monde.
C'était en Coupe du Monde, mais enfin, le rapport à l'arbitrage dans certains États, donc de la péninsule ibérique ou du.
Arabique.
Ou d'Afrique.
Il y a le chorizo, Didier Giraud, la charcuterie.
L'arbitrage dans la péninsule ibérique, il est aussi compliqué.
Oui. Il est bon, Didier. On te salue, Didier, qui nous écoute là. Il nous écoute tous les jours sur son Twitter.
Ça me les 10, le mec qui rentre quand même.
Ah ouais, c'était fou. C'était fou.
Tu t'es rappelé de ça?
Oui, bien sûr.
Adrien, tu t'en rappelles?
Non, j'étais pas né en 82, j'étais pas né, mais j'ai vu les cassettes. J'ai vu les cassettes.
Ça, c'était quelque chose, le mec. En bas, il descend, en bas, il t'en fout.
Et Hidalgo, il fout de rage. T'as des images, il a envie de fracasser tout le monde. C'était fou. J'ai regardé BFM TV également hier, il s'est passé plein de choses. L'histoire d'un lapsus auquel on pense en amont, ça vous arrive? Parfois, avant une intervention, tu dis sur ce thème-là, faut pas que je fasse le lapsus parce que tout le monde y pense et tu le fais finalement. Denis, ça peut arriver.
Jamais.
Alors, BFM TV, le journaliste Igor Saïri a préparé sa chronique sur un dispositif économique, un instrument anti-coercition de l'Union européenne. Igor Saïri veut, je pense, citer un eurodéputé qui s'appelle Bernard Guetta, qui travaille sur le dossier. Forcément,
oui, le frère du disquaire.
Voilà, forcément, en préparant sa chronique, il a pensé au lapsus, et forcément, dans ces cas-là, le lapsus arrive.
Il s'agit d'abord d'un mécanisme juridique puissant, pensé d'abord comme un instrument de dissuasion pour exister dans la négociation. D'où David Guetta. Surnommé l'arme nucléaire économique de l'Union européenne.
J'adore le bug parce qu'il sait qu'il ne doit pas y aller.
Il sait qu'il a fait faible.
C'est la chanson, c'est comme ça, c'est David. Alors, on se le refait.
Mais c'est très intéressant, David Guetta, sur l'Iran.
Oui.
Sur l'Iran, il a vraiment son truc.
Alors, on vous le repasse plus court, puis après, je vous explique.
Il s'agit d'abord d'un mécanisme juridique puissant, pensé d'abord comme un instrument de dissuasion pour exister dans la négociation. D'où David Guetta. Surnommé l'arme nucléaire économique de l'Union européenne.
Alors David Guetta, c'est le demi-frère.
Comment il s'appelle l'autre cornion là, le frangin?
David Guetta, c'est le demi-frère de Bernard Guetta. Voilà.
Ah oui.
C'est quand même demi-frère. Il y a un lien. Ouais, Bernard Guetta. Ancien chroniqueur sur une radio.
Je te dis que c'est le disquaire et lui.
Et un jour, Bernard Guetta a dit, il se retrouve à Noël dîner. C'est le jour et la nuit. Dit, c'est deux mondes qui se rencontrent et puis voilà, c'est un DJ et un éditorialiste international député.
Ouais, parce que le frangin là qui fait de la politique, c'est pas du tout.
Mais ben non, c'est pas le même délire.
C'est pas le même. Quoi, ben ça, ouais, c'est pas du tout le même délire. Il est drôle.
Tu savais pas, Julien, que dans le Moscato Show, un DJ, on dit ça un disquaire.
Disquaire.
Mais c'est un mot qui existe.
Ouais, bien sûr.
Disquaire à l'époque, on disait ça, qui c'est le disquaire.
Non, mais il a commencé disquaire au bain de douche. Voilà. Et on l'a appelé le disquaire.
On l'a appelé le disquaire. Moi, Bill Bocquet, c'était Claude le disquaire à Gaillac au Bill Bocquet après le pont de Brest.
J'ai tout écouté ce week-end. J'ai écouté Anaïs Matin également le week-end. Alors, elle travaille le week-end, samedi et dimanche. L'émission, c'est 7h-9h, Vincent. Donc, elle arrive à 3h du mat. Là, à un moment, c'est.
Avec Fred Hermel. Donc, à mon avis, elle arrive plutôt à 2h.
Et là, on est à 8h25, 8h30 le dimanche. Elle arrive en bout de piste. Elle est fatiguée.
Faut le supporter.
Elle donne le résultat du jeu musical. Il fallait trouver Amel Bent. C'est une sorte de blind test pendant toute l'émission. Du coup, Anaïs Castagna se lance dans la chanson en direct. Et vous savez, au moment où elle accueille Georges Quirino pour parler des GG, du sport, Anaïs se rend compte au moment où elle se lance pour chanter qu'il fallait pas.
Ça lui fait pas peur, Georges Quirino, de débarquer au plateau.
Est-ce qu'en région on peut isoler ça et le garder pour le zapping de fin d'année, s'il vous plaît?
J'étais en train, au moment où je l'ai fait, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi tu fais ça?
Ou l'envoyer au casting de The Voice, hein?
Pourquoi pas? Bon, non,
c'est correct.
C'est correct.
Très correct.
Oui, c'est très correct. Et puis t'es fatigué. En fin de week-end matinal, t'es fatigué. Donc tu te lâches.
Le kéké, quand même, il s'est pas tidé, le kéké. Il a mis de la maturité. Quand il était parti, c'était un gamin. C'est vrai que maintenant, tu vois, il est national.
Georges Quirino.
Georges Quirino.
Le kéké, le
Georges Quirino, donc, qui présente ses grandes gueules le week-end, était sur RMC il y a déjà une quinzaine, vingtaine d'années. Ensuite, est parti vivre en Argentine et revenu.
Voilà, avec une réflexion de Vincent. Voilà.
Ah ouais, je trouve qu'il c'est un homme, c'est un petit con là, il a une personnalité là, il est intéressant. J'écoute des fois les grandes gueules, il est bien.
Sans transition. Alors notre spécialité théâtre, mais théâtre et foot, c'est ça le journal moyen première édition. Jingle.
Vas-y, prends ton temps. Tu crois qu'on n'a pas le temps? On a une Coupe du Monde à gagner.
Vous l'avez reconnu, des nouvelles d'Adil Rami. Il parlait de Pavard à l'époque à la Coupe du Monde, il le comparait au Tuche. Adil qui se lance, Vincent, et ça va te parler dans un projet que tu connais bien, tu as vécu la même chose à la fin de ta carrière, même tu étais encore joueur. Tu vas pouvoir peut-être lui donner quelques conseils. Adil est l'invité de Rotten sans flamme à 18h puisqu'il est en promo, il va parler foot, mais pas que. Il fait ses grands débuts au théâtre à partir de mercredi, après-demain à l'Apollo Théâtre. La pièce s'appelle Le Jeu de la Vérité, pièce écrite et mise en scène par Philippe Lelouch. Adil Rami, Sam Lelouch, Rudy Doucan, Manon Sachaud. C'est l'histoire de trois jeunes trentenaires, potes depuis toujours, qui se retrouvent régulièrement pour dîner. Un soir, celui qui les reçoit leur fait une surprise, leur ami d'enfance, la très jolie fille du lycée qui faisait battre tout leur cœur d'adolescent, va les rejoindre. Et une surprise de taille les attend. Vincent, tu as vécu ça, mais tu nous racontes souvent. Quel conseil tu as donné à Adil quand t'es pas du milieu, tu te retrouves sur les planches? Qu'est-ce que tu lui dis?
C'est compliqué parce que c'est... C'est une autre chose. T'as la pression énorme et tout, et
stress, se
concentrer surtout, pas avoir de problème de texte. Ça c'est primordial. Et puis jouer, t'amuser, parce que souvent la pression t'inhibe complètement et tu te lâches pas, et la prestation elle est moyenne. Que là il faut t'en foutre, il faut jouer à maximum,
faut prendre du plaisir.
quitte à en faire des caisses. Après tu trouveras, parce que c'est tous les soirs quand tu joues au théâtre à Paris, c'est tous les soirs, tu trouveras ton niveau. Mais moi au début j'étais timoré, je n'osais pas trop tout ça, donc après petit à petit tu te lâches. Alors qu'il faut y aller plein badin, et puis
te régaler. Au début heureusement tu avais Bernard Tapie qui te mettait en confiance et qui voulait te mettre en valeur.
Bernard te mettait énormément en valeur.
Il a quand même commencé avec un poulet dans la mêlée, hein.
Un poulet dans la mêlée.
Ça, oui, la première pièce, c'est un poulet dans la mêlée.
Il a joué avec Bernard Tapie,
avec Bernard Farcy et après Bernard Tapie.
J'ai joué un an et demi cette pièce. J'ai joué avec Chantal Latsou, David Sardou. Il y avait Avi Marciano, la fille Tapie, Sophie, et Bernard Tapie. Après, il y avait la petite que tu me dis qui jouait dans le Capitaine Moscato, dans le film, comment elle s'appelle?
Tu me prends au dépourvu. Je ne sais plus.
Oui, on a dépourvu. Enfin, c'était vachement chouette la pièce. Et Tapie aimait beaucoup qu'on lui prenne la vedette.
Adil, pour le coup, on connaît Philippe Lelouch, il connaît quand même un peu le théâtre. Il va être bien coaché là. C'est le metteur en scène.
Oui, il y a Franck Leboeuf. Franck, il continue. Franck, c'est une vraie passion. Il bosse, il produit.
Ouais, il y a beaucoup d'anciens sportifs qui font
du théâtre. Il a du talent, Franck aussi. Et Adil, il est tellement. Tu regardes sa tête, Adil.
t'es vachement, il est rayonnant, il est beau d'abord, et puis il est rayonnant, et en plus il a la connerie sur lui, donc dans la comédie, il peut faire tout, il peut faire la comédie, tout ça. Écoute-moi, on lui souhaite bonne chance.
Adil Rami, dans Rotten sans flamme,
j'ai vu dans La Belle Époque avec Léa Salamé, et il était plutôt beau.
C'est Odile Villemain dont tu cherchais le nom.
Odile Villemain, excusez-moi, je l'embrasse.
Il joue la capitaine Moscato dans une série en ce moment sur France Télévisions.
Mais Chantal, la Chantal là-dessous, c'est tellement drôle, c'est tellement bien de faire du théâtre à plusieurs. Toi, c'est assez sympa.
Chantal,
parce
que c'est incroyable, Chantal là-dessous.
Je chauffe et tout. Ah ouais, mais non. Après, la différence, il faut partager le cachet. C'est pour ça qu'après, j'ai fait de bonnes.
Eh oui, Apolline de Malherbe, régulièrement, hein, pris par la patrouille, Apolline.
Quand on fait beaucoup d'heures d'antenne,
ouais,
comme ça.
Et puis franchement, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire, quoi. Tu te réveilles à 2h du matin, toi, Pierrot, pour aller travailler? Non, c'est pas possible.
Non, parfois, je me réveille à 2h du matin parce que je pense à des trucs.
Tu penses au PSG?
Ouais, parfois.
Et à quoi d'autre?
Allez, dans un instant, Antoine Griezmann, à quelle table le fait-on manger au grand banquet du foot français? A tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.